une histoire particulière. On les appelle les fulgurés. 15 personnes touchées par la foudre en même temps, le 2 septembre 2017, à Azraï, en Meurthe-et-Moselle. Peu avant 16 heures, lors du festival de musique Le Grand Canal, la foudre a frappé. Malgré la violence du choc et l'intensité de la décharge électrique, tous vont survivre. On les nomme donc des fulgurés et non des foudroyés. C'est leur histoire qu'Hélène Delis et François Test vous ont racontée hier dans le premier épisode. Il y a une suite, et de taille, car ils vont développer d'étranges phénomènes qui vont passionner la science. Ce n'est donc pas pour rien qu'on les retrouve dans le second épisode d'une histoire particulière.
Si on m'avait dit un jour qu'on pouvait être touché par la foudre et comme seule marque visible, physique, il y ait là un petit entonnoir sur l'index droit et puis quelques petites traces sur le coude, j'aurais dit, c'est de la folie, c'est fou. Moi, des traces de foudre, j'en vois régulièrement quand je vais en forêt, des arbres qui sont lacérés sur toute une longueur.
Les fulgurés d'Azraï, par Hélène Delis et François Test. Aujourd'hui, un groupe précieux pour la science. Le 2 septembre 2017, un peu avant 16 heures à Azraï en Meurthe-et-Moselle, la foudre frappe simultanément une quinzaine de personnes venues assister à un festival de musique. Si elles ne sortent pas indemnes de ce foudroiement collectif, toutes survivent.
Les miraculés d'Azraï, unis par la foudre qui ne les a pas tués.
L'histoire des fulgurés d'Azraï aurait pu s'arrêter là. Mais un an après leur fulguration, ils font une nouvelle fois parler d'eux, cette fois-ci par la plume de la journaliste Dominique Perrin, dans M, le magazine du Monde. On apprend alors que les fulgurés forment désormais un groupe d'études précieux pour la science.
La vingtaine de personnes frappées simultanément par la foudre le 2 septembre 2017 en Meurthe-et-Moselle sont un groupe uni et un échantillon précieux pour la recherche.
La nature électrique de la foudre est établie par Benjamin Franklin en 1752. Mais ce n'est qu'en 1995 que débute officiellement la chéronopathologie ou médecine chéronique, du grec chéronos, foudre. Rémi Foussa, vous êtes médecin. Vous avez récemment fait une thèse de médecine sur les troubles neurologiques chez les fulgurés, c'est-à-dire chez les personnes qui ont subi un coup de foudre. Sur quoi est-ce que vous travaillez avec les fulgurés d'Azraï?
Le travail consiste à mieux comprendre les troubles neurologiques chez les fulgurés et les troubles neuropsychologiques, qui sont quelque chose qui sont très peu connus dans la médecine actuelle, parce que la fulguration en France, donc le fait d'être touché par la foudre, c'est entre 100 et 500 cas par an, dont la plupart ne sont pas déclarés ou dont les médecins ne sont pas du tout éduqués à prendre ça en charge. Donc le travail consiste à décrire les troubles neurologiques, qui sont à la fois immédiats et transitoires, qui durent quelques minutes à quelques heures, des troubles neurologiques qui sont immédiats et qui se prolongent sur plusieurs semaines, voire plusieurs années, et des troubles neurologiques qui sont retardés, donc qui apparaissent après l'accident et qui peuvent se prolonger, s'améliorer ou s'aggraver. Donc le but, c'était d'avoir une population où on puisse décrire ça, pour venir compléter déjà d'autres cas anciens décrits depuis les années 1930. Et après, le but était, avec un travail conjoint avec le CNRS, de mettre en évidence un traceur de l'intensité énergétique qui traverse les patients.
Raphaël Manceau, vous faites partie des personnes qui ont été le plus touchées lors du foudroiement collectif du 2 septembre 2017. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé pour vous ce jour-là ?
Alors donc j'étais partie avec une amie, on est resté à peine une demi-heure sur la manifestation parce que au bout d'une demi-heure, eh bien l'éclair est tombé. Donc j'ai été touchée au niveau de la tête à deux endroits, au niveau de la zone du langage et puis plus derrière l'oreille. Et donc à ce moment-là, j'ai perdu connaissance et ce pour à peu près 15 minutes. où dans ces 15 minutes-là, j'étais éveillée d'un côté, mais inconsciente de l'autre. C'est-à-dire que j'ai repris connaissance, j'ai posé des questions, mais je n'étais pas présente. J'ai aucun souvenir de ces 15 minutes-là. Elles ont disparu de ma vie complètement. Et en plus, on a été projetés en arrière, donc il y a des douleurs. Moi, comme j'étais touchée à la tête, ça fait un peu comme un AVC, avec des douleurs énormes, des nausées, des acouphènes, une paralysie faciale. Et puis après, la réalisation de ce qui est arrivé, la reprise de conscience avec la... Alors, j'ai des soucis de langage qui sont arrivés avec tout ça, donc forcément, j'ai du mal à parler. Quand on demande de faire appel à la mémoire, c'est moins fluide que dans le quotidien.
Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont communs à toutes les personnes qui ont été touchées par la foudre ?
Alors pas du tout, c'est tout le problème de la foudre, c'est que chaque coup de foudre est unique et chaque personne va être touchée à un endroit particulier et donc on n'aura pas du tout les mêmes lésions, que ce soit qu'elles soient neurologiques ou cutanées, cardiaques, digestives, parfois gynécologiques aussi, on peut avoir des fractures, on peut avoir des ruptures ligamentaires, enfin il y a tout un panel de lésions qui sont extrêmement variées, ce qui fait tout le côté intéressant de la médecine de la foudre.
J'avais tellement mal à la tête que j'avais des nausées, donc je manquais de perdre encore connaissance, donc j'ai été évacuée la deuxième après Jocelyne Chapelle, qui elle était vraiment pas bien du tout, ouais, qui était paralysée. Oui, elle. Quand je suis passée devant mon école, je me suis dit que bon, eh ben, je risquais de pas faire la rentrée avec mes élèves avec un petit pincement au cœur. Hein, ouais.
Parce que vous êtes institutrice.
Voilà, parce que je suis institutrice et je travaille avec des enfants en fait qui ont des difficultés. Donc toutes les difficultés que moi j'ai vécues après. Le langage écrit, le langage mathématique, la compréhension, le graphisme, tout ce que j'ai perdu, en fait, c'est ce que je rééduquais chez mes élèves. Ouais. Très rapidement, je me suis rendu compte que je ne savais plus écrire parce que ben, la rentrée, c'était le 4. On a été foudroyés le 2. Ben, comme tous les enfants, mes enfants reviennent avec les papiers à remplir et j'étais incapable d'écrire. Et puis, un mois et un jour après le foudroiement, je me suis réveillée un matin avec plus possibilité de pouvoir parler. Je pensais, mais le message pour l'articulation, pour... le mouvement de tout ce qui est phonatoire, les cordes vocales, les muscles, la langue, il n'y a plus rien qui fonctionnait à grande vitesse en fait.
La foudre ne va pas se comporter du tout de la même manière selon les patients. La foudre va pouvoir tomber directement dans le corps et rentrer dans le corps et ressortir par les pieds. C'est un coup de foudre direct. On va avoir des coups de foudre directs, mais où la majorité de la foudre, enfin du courant électronique, va surfer sur la peau par rapport à cette transpiration qui est assez salée. Ça va aussi suivre parfois les vêtements, les fermetures éclair. Après, on a des coups de foudre qui sont indirects, où en fait, vous allez avoir un arc électrique qui va se former entre vous et un objet métallique à côté où la foudre tombe dessus. On peut se faire foudroyer en se lavant les mains. Quand la foudre tombe sur les canalisations, par exemple. Il y a quand même des gens qui en décèdent. Hein. Il faut savoir qu'il y a entre 10 et 20% de patients qui quittent notre chère bonne terre directement après un coup de foudre, soit par atteinte cardiaque, soit par atteinte des centres respiratoires.
On a rencontré Rémi Foussa, ça a été un peu notre chance. Et
Lilian Gérard.
Il était doctorant à l'époque, maintenant il est devenu docteur. Il s'est intéressé au problème et lui nous a expliqué clairement ce qui avait pu se passer. Et finalement, dans notre panel de 13 personnes touchées, il y avait une représentativité de tous les aspects et symptômes du coup de foudre, quoi, entre la perte de mémoire, perte d'élocution, les brûlures, parce qu'on avait aussi les brûlures physiques.
La vôtre, elle était comment, par exemple?
C'est une pièce de 2 euros, donc en haut du lobe frontal, en fait. Et donc, c'était vraiment brûlé avec la chair à vif et se dire qu'il y a le cerveau qui pouvait fuser par là-haut, c'est ce qu'il y a de pire pour moi, c'était être touché au cerveau, quoi. Et les brûlures aux pieds, puisque la foudre m'a traversé depuis la tête, donc avec cette pièce de 2 euros, et 11 points de sortie dans les pieds, donc 6 à gauche et 5 à droite, avec deux grosses blessures aux pieds, avec des nécroses qui partaient sur plus d'un centimètre de profondeur. Donc là, c'était la grosse inquiétude des médecins, et donc de moi-même aussi, que ça se nécrose et que ça ne cicatrise pas. Finalement, ça s'est bien cicatrisé. Mais oui, c'était assez impressionnant. Et c'est là qu'on a su qu'on avait été complètement et littéralement traversé par la foudre.
Rémi Foussa, est-ce que vous pouvez nous parler des lésions les plus communes qu'on rencontre chez les foudroyés, et, enfin surtout chez les fulgurés en réalité?
Les plus impressionnante, on va dire, c'est donc les fameuses figures de Lichtenberg qui sont encore mal connues sur le mécanisme de pourquoi elles marquent. En fait, c'est quoi? C'est des feuilles de fougère un peu qui se tracent sur la peau des patients et qui sont très temporaires, hein, qui durent quelques minutes à quelques heures. Donc c'est un signe pathognomonique de la foudre, hein. C'est que si vous avez ça, vous êtes sûr que la foudre est passée sur le patient. Sauf que tous les patients ne l'ont pas. Après, les troubles les plus courants, on a surtout les troubles cardiaques, donc les arythmies cardiaques. Après, les troubles les plus handicapants qu'on retrouve, c'est les troubles neurologiques. Hein. Clairement, c'est ce qui a été intéressant. C'est des troubles où vous avez des patients qui vont avoir des pertes de mémoire, qui vont avoir un syndrome de stress post-traumatique, et des patients qui, parfois, vont avoir des troubles de l'équilibre aussi. Et après, tous les troubles, donc un petit peu psychiques, un trouble du sommeil, caractère qui change, angoisse, tout ce qui va avec.
Marie-Agnès Courty, vous êtes géologue de formation, vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire PROMESS de l'Institut des sciences de l'ingénieur à Perpignan. Vous travaillez avec le docteur Rémi Foussa. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce protocole que vous avez lancé ensemble?
Et en fait, c'est une recherche très longue que j'ai conduite en lien avec des archéologues qui m'a conduit à identifier dans des couches anciennes la présence de plastique naturel, de comprendre qu'ils étaient formés par des mécanismes physiques en lien avec l'électricité atmosphérique et que, en fait, dans le déclenchement de la foudre et donc de ses effets sur le corps vivant, on pouvait peut-être retrouver ce type de ce qu'on appelle des nanocomposites formés par ces décharges électriques. Donc en fait, c'est ce rapprochement-là, enfin cette hypothèse qui a conduit au rapprochement avec l'équipe du docteur Comont, donc à Aurillac, qui lui s'intéressait depuis longue date à ces phénomènes de fulguration, qui restait un peu dans l'expectative comment les mettre en évidence, comment les comprendre. Et là donc on a testé ce critère. Donc retrouver ces nanocomposites, c'est comme ça qu'on a mis en place ce protocole dans le cadre de la thèse de Rémi Foussa.
Pourquoi est-ce que les fulgurés d'Azeraï vous intéressent?
Alors, ils nous intéressent, je dis en souriant, parce que c'est pas évident d'avoir des, en quelque sorte, des populations expérimentales pour ce type de situation. Il faut bien voir que même si on procède en laboratoire, en particulier au laboratoire PROMESS, mais avec d'autres laboratoires qui ont les équipements pour faire des décharges électriques ou des décharges plasma, on peut pas le faire sur le corps humain, bien entendu. On peut le faire, pourrait le faire sur des animaux, mais c'est encore d'autres protocoles et on aura de toute façon jamais les intensités que déclenche des situations de foudre naturelles. Donc on a là en quelque sorte une expérimentation, une situation naturelle qui est remarquable dans le sens où elle affecte plusieurs individus qui ont donc des héritages différents dans leur vie, dans leur milieu de vie. Donc il y a déjà toute une variabilité à comprendre et ensuite une variabilité dans la situation du déclenchement. Donc c'est extrêmement rare d'avoir accès Ça se passe relativement fréquemment, ce type de foudroiement, mais ce qui est rare, c'est qu'on puisse avoir accès à l'information et qu'on soit, qu'on nous permette de pouvoir suivre ce type de population.
Tout à l'heure, Raphaël Manceau, vous m'avez dit que malgré tout, vous avez dû faire le deuil de certaines choses à cause de ce foudroiement. Quoi par exemple ?
Alors, j'ai tout le côté droit qui est, au niveau sensitif, le message ne passe pas toujours bien. Donc, je n'aurai plus une démarche chaloupée de mannequin et j'aurai des difficultés à écrire. Ça, c'est... Il a fallu que je passe par l'acceptation et de me dire que ça ne pourrait peut-être plus se faire. Donc, je vais faire une séance d'ergothérapie pour essayer de travailler sur ce côté sensitif. Mais j'ai aussi appris à écrire de la main gauche. C'est pas facile, mais je m'en sortirai. Voilà. Quand mon médecin traitant m'a dit au bout de 15 jours que madame, vous avez été foudroyée il y a 15 jours et c'est bon, vous pouvez retourner travailler, le monde s'est écroulé sous moi, quoi. C'était très compliqué. Il n'y a que quand j'ai commencé à ne plus parler que tout le monde s'est affolé, en fait. Que tout le monde a dit, foudrement, c'est pas rien, c'est compliqué, il y a des choses qu'il faut mettre en place, quoi.
À ce stade, qu'est-ce que les fulgurés d'Azeraï vous ont permis de découvrir ?
Ça nous a permis de comprendre que le corps va enregistrer ces phénomènes électriques, ces champs électromagnétiques, ce qui n'avait en fait jamais été pensé. Nous-mêmes, notre corps est constitué de plein de nanobriques, un petit peu comme un Lego. Et en fait, sous l'effet d'une décharge électrique qui est une énorme énergie, seules des briques, des nanobriques très résistantes vont subsister. Et en fait, ces nanobriques très résistantes étant porteurs d'énergie, elles vont accumuler cette énergie, et du fait qu'elles vont l'accumuler, elles vont s'assembler. Et donc ça va faire une sorte de chapelet, puisque c'est effectivement des chapelets qui sont extrêmement solides. Et ça, c'est complètement indestructible, et c'est présent dans le corps humain. C'est pas ça qui est toxique, ça, par contre, ça nous renseigne sur des nanoparticules, donc ces briques constitutives de ces chapelets, qui étaient présentes dans le corps humain, et dont on n'avait pas véritablement la connaissance.
Et ces connaissances-là, Marie-Agnès Courty, elles peuvent nous renseigner aussi sur ce qu'on appelle les troubles différés.
Bien entendu que c'est cette compréhension et ce questionnement sur les troubles différés, donc qui peuvent se produire à quelques mois, quelques années, dans des intervalles de temps extrêmement longs, qui effectivement nous a interpellés et a renforcé notre hypothèse qu'il y avait un lien entre les nanocomposites et les mécanismes, tous les dérèglements mis en jeu par le foudroiement, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu production de ces petites briques-là, porteurs d'énergie, eh bien, elles vont rester dans le corps humain. Et donc, il va suffire d'un petit événement pour qu'en fait, hop, ça y est, elles sont réactivées et il va s'en reproduire. Donc, en quelque sorte, il y a un nouveau stock. Les fulgurés sont porteurs d'un stock réactivé de nanoparticules qu'ils avaient préalablement, mais il a été dynamisé en quelque sorte par cet événement très particulier qui a été le foudroiement. Et donc, jusqu'à quand on n'en sait rien, c'est pour ça qu'on suit cette population, ils vont en fait être le siège de transformations relativement inhabituelles de par la présence de ces quantités considérables de particules hyperactives. Voilà. Et nous, on va les suivre avec les nanocomposites.
Parmi les symptômes que vous avez rencontrés, Raphaël Manceau, il y a un article qui a été publié dans Le Monde qui disait que vous aviez rencontré pendant un temps une sorte de superactivité cérébrale, que vous aviez quasiment des capacités cérébrales augmentées.
Alors, c'est ce que j'ai appelé la période open bar. C'était très grisant. il y avait deux phénomènes, hein. Il y avait cette grande fatigue et le fait de ne pas pouvoir parler correctement. Et à côté de ça, quand je me reposais, je m'allongeais et là, je faisais plein de choses en même temps, mais que cérébral, c'est-à-dire que je pouvais faire des grandes multiplications, je pouvais me rappeler de mes souvenirs d'enfance que je ne faisais pas avant. Donc je me dis, ils sont présents, mais la boîte n'était pas ouverte, tandis que là, je me rappelais de plein de choses de mon enfance, même de très petit, et ça c'est rare aussi. Je pouvais organiser ma journée, mais ça n'a pas duré longtemps. Cette hyperactivité, en fait, on sentait que tout était fluide et libre. Mais une fois que tout se s'est refermé, c'était un peu compliqué.
Ça a duré combien de temps, justement ?
Presque 2 mois, ouais. Ouais.
Autant pendant les premiers 6 mois, j'avais des moments de fatigue vraiment intenses. Donc là, on va appeler ça un trouble plutôt transitoire. Maintenant, j'en suis dégagé. Par contre, trouble retardé, j'ai des douleurs musculaires qui reviennent régulièrement et des sortes de tétanies. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces choses-là, elles ont été pas forcément considérées par les caisses d'assurance maladie. Sur le papier, il est dit qu'au bout de quelques mois, je n'ai plus de trouble et le dossier ne va pas rester ouvert, sauf si je fais la demande express auprès d'un médecin agréé par la CPAM pour me dire que bah non, j'ai plus de trouble. Alors qu'en fait, ces troubles-là, ils sont effectivement latents et donc j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça fait partie de ces troubles transitoires. Je perds le fil de ma pensée.
Ce qui inquiète beaucoup les gens qu'on a rencontrés, ce sont les troubles retardés. Est-ce que vous voulez bien nous en parler de ces troubles retardés ?
Alors, c'est de loin les plus intéressants, parce que déjà, c'est les moins connus sur le plan scientifique. C'est actuellement aussi les moins décrits. Donc, la relation entre le coup de foudre et les troubles neurologiques retardés n'est pas toujours établie. Donc, c'est là où il est intéressant que les gens qui sont touchés par la foudre sachent que le ressenti et les troubles neurologiques qu'ils ont 1, 2, 3 mois après l'accident sont reliés à l'accident de la foudre. Donc, c'est des troubles qu'on explique avec quelques rares hypothèses médicales. Et c'est les troubles aussi qu'on retrouve dans d'autres pathologies. On le retrouve surtout chez les patients qui sont irradiés pour certaines greffes de moelle et qui déclenchent des troubles neurologiques aussi, un petit peu du même genre. Et les troubles neurologiques retardés apparaissent après les 3 premières semaines après le coup de foudre et peuvent apparaître jusqu'à 1 voire 2 ans après le coup de foudre. Voilà. Après, de dire que c'est quelque chose de fiable, ce serait bien, bien orgueilleux, parce que les descriptions de cas de personnes fulgurées, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, à mon sens, sur le plan scientifique, pas plus de 1000. Sur les troubles neurologiques retardés, je parle, hein, pas sur les autres troubles. Donc sur 1000 patients, sur 80 ans d'histoire médicale, ça paraissait un peu compliqué pour l'instant de dire plus précisément les choses.
Jean-Luc Mellet, vous m'avez dit qu'en fait, vous y repensez tous les jours, à cet accident.
Bah, j'y repense tous les jours, oui, parce que bon, bah, c'est avec mes enfants, j'y pense aussi tous les jours. Donc voilà, donc le soir, c'est plus... C'est le moment où j'y repense avant d'aller me coucher. Donc voilà, j'en repense à l'accident, aux enfants, à tout le monde. C'est difficile à oublier.
Et vous avez un accompagnement sur ce plan-là, quelqu'un avec qui vous pouvez en parler régulièrement pour essayer petit à petit peut-être d'y penser un peu moins?
Non, mais bon, ça, je pense que ça passera avec le temps, mais bon, ça va être difficile de ne pas y penser avec les enfants, c'est surtout ça.
Faut que vous laissiez vos mains tranquilles. Mais... Vous dites, bon, vous y repensez beaucoup, et à l'orage, est-ce que vous repensez souvent à l'orage, Jean-Luc Mellet ?
À l'orage, ben, on y fait attention maintenant. On est toujours un peu inquiet, est-ce qu'on va arriver à faire notre travail, notre activité qui est en cours ? Parce que, ben voilà, donc l'orage, comme il avait pas prévenu, ben ça on se pose toujours la question, est-ce qu'on va pas en avoir un ou un autre problème à gérer?
Et ça, c'est apparu tout de suite ou plus tard?
La nervosité peut relativement assez vite. Toujours assez vite, la nervosité, l'anxiété. Voilà, ça reste toujours un petit peu angoissant.
On a vécu une expérience unique, exceptionnelle, extraordinaire. On ne l'a pas cherché, c'est pas volontairement. Et on est lié par cet événement foudroyant. À la première réunion qu'on a eue ensemble à Sion, quelqu'un avait dit, si on est encore vivant, c'est parce qu'on a partagé la décharge. Bon, au fond de moi, je sais que c'est faux. On est un peu démiraculés. Il y a probablement une explication. Mais pour le moment, on ne la connaît pas. On ne la sait pas. On a du mal, enfin, on ne peut pas vraiment expliquer le pourquoi. Et on a du mal à expliquer pourquoi, dans un coin, les gens ont été très touchés et à un mètre à côté, beaucoup moins touchés, comme moi. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Même ceux qui, comme moi, ont peu de séquelles et se disent presque quasiment indemnes, je crois qu'on a quand même besoin à certains moments de se raccrocher à quelque chose. Parce que je fais le fierro, hein. Mais en réalité, on a tous été secoués, pas seulement physiquement, on a tous été quand même très, très, très secoués. Donc on a besoin aussi parfois de se raccrocher aux petites histoires et aux autres, à ceux qui ont partager avec nous ce moment bref et intense, bref, très bref.
Je me dis souvent que je n'ai pas eu de chance, et puis après je me dis que je suis quand même vivante et que j'ai la capacité de pouvoir récupérer. Alors il y a des choses que j'ai fait des deuils, comme dans toute, on va dire, maladie. On fait des deuils sur certaines choses, mais c'est vrai que la force des éléments, c'est pas magique, mais j'ai trouvé ça beau, mais bon, maintenant, avec le recul, je trouve ça moins beau, mais oui, le souvenir que j'ai eu, c'était de l'émerveillement.
C'était les fulgurés d'Azraï. Avec Raphaël Manceau, Lilian Gérard, Herbert Ernst, Jean-Luc Mellet, Fulguré à Azraï, Rémi Foussa, médecin, et Marie-Agnès Courty, géologue. Merci à Manuela Morgan, Bruno Fréchard, Christian Virenc, Alex Serment et Albert Rochette. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Hélène Delis et François Test.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour la dernière émission de la saison. Nous irons en bord de mer.